Épître de Paul à Philémon, verset 1er, on va lire toute l'épître. Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et le frère Timothée à Philémon, notre bien-aimé, notre compagnon d'œuvre, à la sœur Aphia, probablement sa femme, à Archippe, notre compagnon de combat, et à l'église qui est dans ta maison. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends continuellement grâce à mon Dieu faisant mention de toi dans mes prières, parce que je suis informé de la foi que tu as au Seigneur Jésus et de ton amour pour tous les saints. Je lui demande que ta participation à la foi soit efficace pour la cause de Christ, en faisant reconnaître en nous toute espèce de bien. J'ai en effet éprouvé beaucoup de joie et de consolation au sujet de ton amour, car par toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé. C'est pourquoi, bien que j'ai en Christ toute liberté de te prescrire ce qui est convenable, c'est de préférence au nom de l'amour que je t'adresse une prière. Étant ce que je suis, Paul, un vieillard et de plus maintenant prisonnier de Jésus-Christ. Je te prie pour mon enfant, que j'ai engendré étant dans les chaînes, Onésime, qui autrefois t'a été inutile, mais qui maintenant est utile, et à toi, et à moi. Je te le renvoie, lui, une partie de moi-même. J'aurais désiré le retenir auprès de moi pour qu'il me serve à ta place, pendant que je suis dans les chaînes pour l'Évangile. Toutefois, je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait ne soit pas comme forcé, mais qu'il soit volontaire. Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le retrouves pour l'éternité, non plus comme un esclave, mais comme supérieur à un esclave, comme un frère bien-aimé, de moi particulièrement et de toi à plus forte raison, soit dans la chair, soit dans le Seigneur. Si donc tu me tiens pour ton ami, reçois-le comme moi-même. S'il t'a fait quelque tort, ou s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Moi, Paul, je l'écris de ma propre main. Je paierai, pour ne pas dire que tu ne te dois toi-même à moi. Oui, frère, que j'obtienne de toi cet avantage. Dans le Seigneur, tranquillise mon cœur en Christ. C'est en comptant sur ton obéissance que je t'écris, sachant que tu feras même au-delà de ce que je dis. En même temps, prépare-moi un logement, car j'espère vous être rendu grâce à vos prières. Epaphras, mon compagnon de captivité en Jésus-Christ, te salue, ainsi que Marc, Aristarque, Démas, Luc, mes compagnons d'œuvre, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Amen. Voilà une courte lettre. Il y a trois personnages principaux dans cette lettre. Le premier, c'est celui à qui est adressée cette lettre, Philémon. Ce que l'on sait sur lui, ce que l'on découvre, c'est quoi? Un chrétien qui habite Colosse, un chrétien fidèle et aimant, que Paul respecte beaucoup. Vous avez remarqué que la lettre, elle est très polie, très courtoise. Un homme qui a, Philémon, c'est un homme qui a la tête sur les épaules, et de toute évidence, il est riche, pour deux raisons, parce qu'on voit qu'il détient des esclaves, et aussi parce qu'il a une grande maison, et l'on peut, où l'église peut se rassembler pour s'y réunir. Voilà un petit peu le topo pour Philémon. Et il y a celui qui écrit la lettre, l'apôtre Paul, qui a beaucoup d'affection pour Philémon, beaucoup de respect. Il est en prison, non pas parce qu'il a fait des bêtises, mais à cause de sa foi, parce qu'il est prédicateur de l'Évangile. Et puis le troisième personnage, c'est Onésime, celui qui est l'objet de cette lettre. Et en lisant la lettre de Paul, on comprend un petit peu l'histoire d'Onésime que je vais essayer de résumer. Onésime est un jeune esclave qui appartient à Philémon. Alors tout de suite, je m'arrête un petit peu sur la notion d'esclavage en précisant deux choses. À cette époque, ce n'était pas illégal d'avoir un esclave. C'était comme ça. Ce qui était illégal, et encore plus contraire à la foi, c'était de mal se conduire avec son esclave. L'esclave avait des droits, il avait moins de droits qu'un homme affranchi Il a encore moins de droits qu'un citoyen romain, mais il avait des droits. Et puis la deuxième chose que je voudrais dire, ça c'est plus pour les frères et sœurs qui lisent la parole régulièrement, on a tendance des fois à traduire le mot esclave par le mot serviteur. Je pense que c'est une erreur. Parce que la notion d'esclave, c'est beaucoup plus fort. Quand Paul parle de lui comme un esclave, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire qu'il ne s'appartient pas à lui-même, mais à Jésus-Christ. La notion d'esclave, ça nous ramène vers une notion d'appartenance. Un esclave, c'était un bien à cette époque, une marchandise. Hein. Et je crois que c'est toujours intéressant de se rappeler ça. Un esclave, c'est quelqu'un qui appartenait à quelqu'un. Et quand nous, Paul parle de lui comme esclave de Jésus-Christ, il veut signifier non pas qu'il est serviteur, mais son appartenance à Jésus-Christ. Je ferme ma parenthèse. Donc on a Onésime qui est un esclave et puis un jour il va s'enfuir de chez son maître, manifestement en causant beaucoup de tort. Soit il a saboté les appareils, soit il a volé, mais il a fait beaucoup de dégâts pour que Paul soit obligé de faire cette démarche auprès de Philémon. À mon avis, il y est allé fort. Hein. Et Philémon, il ne veut plus en entendre parler, et peut-être il serait prêt à lancer la machine judiciaire. Onésime s'est enfui, il est parti de Colosse, il a traversé la mer, il a traversé l'Europe, et il se retrouve à Rome. Peut-être que Rome, à l'époque, c'est comme Paris pour certains, vous voyez, ils rêvaient, je vais aller dans la ville, et puis vous allez voir ce que vous allez voir. Ce qu'on a vu, c'est que quand on part dans ce genre de situation, on se retrouve très vite dans de mauvais endroits. Et il va se retrouver dans quoi? Certainement dans des milieux de vol, de débauche, de corruption. Et puis derrière, ça sera violence, bagarre, prison. Et puis, il va se retrouver en prison à un moment donné. Et là, il va rencontrer l'apôtre Paul. Et ils connaissaient tous les deux Philémon. Hasard? Non. Providence divine? Certainement. Et puis, Paul va commencer à lui parler de celui dont il avait certainement entendu parler il y a des années, même s'il ne voulait pas l'entendre. Peut-être qu'Onésime, quand il entendait des cantiques, il disait « M'énerve, c'est chrétien !» Mais, en tous les cas, je pense qu'il était dans d'autres circonstances. Et là, il était prêt à entendre. Et l'apôtre Paul va parler de Jésus à Onésime. Onésime va accepter Jésus comme sauveur. Sa vie va être transformée. Et voilà pourquoi ensuite, Paul fait la démarche auprès de Philémon pour qu'il le reprenne. Peut-être qu'il arrête la machine judiciaire. Voilà. Ce que je voudrais dire dans cet après-midi, c'est que ce que Dieu fait dans la vie d'Onésime, il peut le faire dans votre propre vie. Dans chacune de vos vies. Qu'est-ce que Dieu a fait dans la vie d'Onésime et qu'il peut faire chez vous? D'abord, Dieu est intervenu providentiellement quand ce jeune homme a touché le fond. Je me mets à la place de ce jeune homme. Il a dû se faire toutes sortes de films sur la liberté. Peut-être qu'il est en pleine révolte et peut-être qu'à l'époque, accuse l'esclave qui se libère et j'imagine un petit peu, et il part, il rêve de ça. Sauf qu'il y a le film, il y a le cinéma et il y a la réalité. Et rapidement, il se retrouve en difficulté. Hein, on le sait très bien, quelqu'un qui part, des fois les gens partent à l'aventure, mais ils finissent à la rue. Et à la rue, ça veut dire quoi? Ça veut dire alcool, ça veut dire drogue, ça veut dire violence, ça veut dire que insécurité. Et peut-être que rapidement, alors qu'au départ, il est parti, c'était l'été, c'était sympa, mais rapidement, il y avait le froid. Il y avait la faim, c'est la galère. Et on se retrouve dans une spirale et ce jeune homme va se retrouver dans une spirale et à un moment donné, il va se retrouver en prison. On imagine comment il s'est retrouvé en prison. Il s'est retrouvé dans une sale affaire, peut-être qu'il a seulement suivi, mais enfin, il s'y retrouvait. Et à cette époque, on ne s'embarrassait pas. Hein. Entre celui qui a suivi le responsable, on ne cherchait pas. Hein. C'était même tarif pour tout le monde. Hein. Et je me mets à la place de ce jeune homme-là. Et qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis sauvé de chez mon maître. Et voilà où j'en suis. Ça doit vous rappeler notre histoire, ça. Dans Luc chapitre 15, Jésus a raconté l'histoire du fils prodigue. Alors le fils prodigue, c'était pas comme Onésime, lui n'était pas esclave, mais il avait le sentiment d'être comme un esclave. Il disait, oh, j'étouffe chez mon père, je suis comme un esclave. Non, ce n'était pas comme un esclave, mais des fois on pourrait penser de cette manière-là. Et il est parti, voulant la liberté, rêvant. Et quand on lit l'histoire de Luc 15, c'est aussi la dégringolade. Il nous est dit qu'il a vécu dans la débauche, alors au départ c'était, comme on dit, c'est lui qui a arrosé. Hein. C'était le grand prince des grandes soirées. Et quand il n'y a plus d'argent, il n'y a plus d'amis, en plus une famine est venue derrière, et il s'est retrouvé à un moment donné à garder les cochons, à se dire finalement tu ne vaux pas plus qu'un cochon. Il aurait même voulu manger ce qu'il mange, et là, il touche le fond. Et là, il se souvient que les ouvriers chez son père, ils ont du pain en abondance, et moi ici, je suis en train de mourir de faim. Et là, il touche le fond. Et il touche le fond, il rentre lui-même, et il amorce un mouvement de retour. C'est ce qui s'est passé aussi dans la vie d'Onésime. À un moment donné, il y a eu du yala, stop, je vais arrêter tout ça. Et combien c'est important un jour dans notre vie de dire stop, parce que Dieu attend ce genre de cri. Le problème, c'est qu'on a l'impression qu'ils ne touchent jamais le fond. Et ça nous épuise. On se demande, mais jusqu'où ils vont aller? Et c'est bon au moment de dire stop, mais où je vais? Seigneur, secours-moi, s'il y a un Dieu qui est là, mais viens à mon secours. Et quand il y a ce stop, ce ras-le-bol, dire assez, là Dieu peut intervenir. Des gens qui, quand à un moment donné on dit stop, Seigneur secours-moi, on en connaît. Hein. Moi je sais qu'à un moment donné j'ai dit stop, mais où je vais dégringoler? Il y a eu un ras-le-bol, un cri du cœur. Et là ça déclenche des choses. Comme si Dieu attendait ce moment-là, parce qu'il sait très bien que s'il intervient avant, ça ne bouge pas. Je pense à quelqu'un qui a entendu l'évangile toute petite. Elle a entendu, elle connaissait tout. Et puis elle a pris une mauvaise voie. Et dans cette voie, on trouve toujours les mêmes choses. Cannabis, fête, alcool, etc. Elle s'est mise avec un homme. Et puis il y avait des mauvais coups. Et un jour, on est venu poser des affaires qui avaient été cambriolées chez eux. Sauf que peu de temps, rapidement après, la police est arrivée. Elle était enceinte. Et là, elle s'est retrouvée en prison, en cellule. Elle s'est dit, mais qu'est-ce que je fais là? C'est quoi ma vie? Et voilà où je vais. Mais elle a pris conscience de, mais si elle est... Et là, il y a un stop qui est venu. Seigneur, secours-moi, je ne veux plus de ça. Elle a crié à Dieu, la prière du cœur, la prière comme Pierre, sauve-moi, sauve! Et rapidement, les choses se sont débloquées à ce moment-là. Et cette prière, il faut la faire à un moment donné, le stop. Seigneur, je pense aussi à quelqu'un, Elisabeth sur Mâcon. Elle, à un moment donné, elle était en plein drame, de répression. Elle était en train d'enjamber la fenêtre. Elle s'est dit, elle a donné, je te donne une dernière chance, mais j'en peux plus. Parle-moi. Et elle a ouvert la Bible, et là, l'Esprit de Dieu est tombé sur elle. Le texte qu'elle a lu a touché son cœur, elle a découvert la grâce et s'est convertie. Mais elle allait mettre fin à ses jours. Et Dieu, des fois, il sait nous atteindre à la limite, mais parce qu'on l'oblige à faire de cette manière-là. Mais je le dis bien, le problème c'est que certains ne touchent jamais leur fond. Et on ne sait pas jusqu'où ils vont descendre et ils pensent qu'ils vont toujours s'en sortir eux-mêmes ou que ça va toujours s'arranger. Non. Je crois que c'est important et Dieu est intervenu. Quand il a dit stop, je suis convaincu que dans les heures qu'on suivit, les jours qu'on suivit, il y a eu la rencontre avec Paul. Hasard? Non. Providence divine. Réponse de Dieu au cri du cœur. La deuxième chose que Dieu a fait et que Dieu veut faire dans votre vie, c'est qu'il avait fait de lui une nouvelle créature. Au verset 10, Paul explique à Philémon et il dit « Je l'ai engendré ». Alors quand on lit ça un peu vite, on ne s'arrête pas trop. Mais pour ceux qui connaissent le vocabulaire biblique, on sait ce que ça veut dire derrière le mot « engendré ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Paul fait référence à une expérience incontournable, absolument nécessaire, qui s'appelle la nouvelle naissance, la régénération, la vie dans l'appropriation du salut. L'apôtre Paul a engendré, c'est-à-dire qu'il a amené avec Onésime en lui parlant, il lui a rappelé l'évangile, il l'a amené peut-être à prier, à ouvrir son cœur et à un moment donné, la vie de Dieu a jailli dans son cœur. Et ça, c'est important. Et ça, c'est Engendrer, c'est un mot qui est juste parce que vous savez, quand on amène quelqu'un au Seigneur, là, des fois ça m'arrivait d'accompagner quelqu'un. Allez, tu pries comme ça, tu ouvres ton cœur, tu confesses ton péché. Et on sent l'Esprit de Dieu qui est en train de déposer la vie. Et ça, c'est beau. Hein, c'est comme dans une maternité, ouais, c'est la vie qui jaillit. C'est la grâce de Dieu qui se manifeste. La nouvelle naissance, ça consiste à recevoir la vie de Jésus en nous. Alors c'est assez inexplicable, hein, mais on le sent. Après, il y a beaucoup de choses qui changent. Notre mentalité change. Notre conscience est changée. Notre perception de la vie est changée. Notre réflexion est changée. Dieu dépose des convictions, des certitudes. Mais la nouvelle naissance, c'est absolument indispensable. Hein. Rappelez-vous ce que Jésus a dit à Nicodème par trois fois. Il faut. C'est pas, ça serait bien. Hein. Il faut que tu naisses de nouveau. C'est même primordial, ça passe avant le reste. Peut-être que Onésime, au départ, il avait les yeux, il dit « Comment je vais sortir de prison ?» Mais Dieu a fait quelque chose avant de sortir de prison. Hein. Il l'a fait naître de nouveau. Et je suis convaincu que lorsqu'il est né de nouveau, peut-être qu'il ne pensait même plus à sortir de prison. Parce que c'était déjà, il sortait libre à l'intérieur de son cœur. Mais ça, c'est la priorité. Bien sûr, Dieu allait le sortir d'affaire. Mais nous, des fois, on veut que Dieu règle nos problèmes. Et puis après, on verra si je l'accepte dans mon cœur. Reçois Jésus dans ton cœur. Et il y a beaucoup de problèmes qui pourront se régler derrière. Et il y a des personnes, elles veulent juste que Dieu règle les problèmes, mais pas qu'il intervienne dans leur vie, qu'il change leur vie. Et puis j'aimerais dire aussi que la nouvelle naissance, ce n'est pas automatique. Hein. Ça demande une démarche du cœur et une démarche vraie. Je disais tout à l'heure que Onésime, à un moment donné, l'a dit, c'est assez. Stop à cette vie de péché. Il y en a marre. Je veux changer. Il y a eu un cri du cœur. Et ça, c'est vraiment important. Vous savez, des personnes, des fois, j'ai souvenir de personnes où on a prié ensemble et il ne se passe rien. Puis des fois, en grattant, je pense à une situation sur Nîmes. Avec M. Zanellato, on visitait un homme et cet homme était en train de mourir aux portes de la mort. Et il nous paraissait sincère et il dit, ouais, on l'aidait à prier, Seigneur, pardon pour mes péchés. Il dit, mais vous devez avoir l'assurance du salut maintenant. Il n'y avait rien, il est toujours... Il baignait dans son jus. On ne comprenait pas, on dit, mais c'est, il va mourir, cet homme demande pardon pour ses péchés. C'est, presque, je dis, mais Seigneur, qu'est-ce que tu fais, quoi? Ben, on était à peine sorti, je crois que M. Zato était resté. Après, il me dit, mais quand je suis sorti, j'ai croisé une dame qui rentrait. Ce n'était pas sa femme. Cet homme, il avait une amante. Et ça restait encore secret au port de la mort. Mais il aurait dû le dire. Ça devait sortir. Vous voyez, quand on cache des choses, ben, Dieu le pèse. Dieu le voit. Et je me dis, cet homme, il est mort, finalement. C'est même pas ce que... C'était triste. Ça nous a laissé un goût de tristesse. Et nous, on priait. Mais il y a quelque chose qu'il n'a pas voulu lâcher et reconnaître devant le Seigneur. Dieu veut t'amener à la vie nouvelle, à la nouvelle naissance. Ça peut être vrai pour quelqu'un qui a 85 ans, ça peut être vrai pour quelqu'un qui a 14 ans. Ça, c'est pour la vie nouvelle. On n'y échappe pas, il faut l'expérimenter. Ce que Dieu a fait aussi vis-à-vis de ce jeune homme, il l'a amené à la liberté. Onésime, il était dans toutes sortes de prisons. Il y avait la prison romaine. Et quand Jésus est devenu son sauveur, ça a eu un sentiment de liberté, mais enfin, il était toujours en prison. Il y avait le problème avec Philémon, qui était loin d'être réglé. Et puis, il y a peut-être aussi toutes sortes de chaînes de dépendance, d'addiction, parce que vous savez, quand on met la main dans certains engrenages, en tous les cas, ce que je veux dire, c'est que quand il a reçu Jésus-Christ comme sauveur, il est rentré dans un processus de libération. Quand on donne sa vie à Jésus, il y a souvent des délivrances qui sont immédiatement. Et puis, il y en a d'autres ça va dégager. En marchant sur le chemin. Des chaînes et des prisons, il y en a de toutes sortes. Hein. Il y en a des bien visibles. Le bureau de l'église, il est juste à côté du bureau de tabac. Et j'ai repéré deux chaînes bien visibles. Ceux qui achètent des cartouches comme ça, des paquets de cigarettes. J'ai moi-même été fumeur. Hein, et je comprends la dépendance qu'il y a. On sait que Jésus libère. Hein. Plusieurs ont été libérés de la cigarette. Et puis il y a ceux aussi qui grattent. Il gratte, alors l'autre fois je regardais, je voyais une dame, elle grattait, je dis, allez, T'as perdu. Je l'ai regardé comme ça, je dis, t'as perdu. Puis je regardais parce que des fois j'ai eu là en plus la mettre dans la boîte aux lettres. Ils vont même pas à la poubelle, ils mettent dans la boîte aux lettres de l'église. Le ticket une fois qu'il est. Mais on voit une dépendance par rapport au jeu. C'est une chaîne. Là aussi, c'est une addiction, mais il y en a d'autres. Hein. Des visibles, des moins visibles. Et puis, il y a des chaînes comme la colère, la haine, le racisme. Ça, c'est des choses qui peuvent nous tenir. Ça peut être aussi la dépendance affective. On est tellement, et on va se jeter dans tous les bras qu'on trouve. On trouve des personnes qui vivent de cette manière-là. Ça peut être, bien sûr, des chaînes occultes. On est allé voir des sorciers, des gens comme ça. On a ouvert des portes. On est comme enchaînés. Quelles que soient les chaînes qu'il peut y avoir, ça peut être les chaînes de l'angoisse, la peur, des phobies. On veut proclamer bien haut et bien fort, Jésus libère. Jésus libère de toute chaîne. Certaines, j'y bien, elles sont tenaces. Certaines, des fois, il faut avancer sur le chemin. Et moi, je crois à la grâce de Dieu. Et Dieu peut agir, il n'y a rien qui ne lui résiste. Il peut tout. Ce que Dieu a fait aussi pour Onésime et qu'il peut faire pour vous, Dieu a amené cet homme à une vie utile. L'apôtre Paul va faire un jeu de mots avec Onésime, parce que Onésime, ça veut dire utile ou profitable. Donc il écrit ceci, « Je te prie pour profitable ou pour utile, qui ne t'a pas été utile, mais qui maintenant va t'être utile. » Vous voyez, c'est un jeu de mots. Et nous comprenons que jusque-là, donc Onésime, il ne portait pas bien son nom. S'appeler utile et servir à rien. Il y a un jeune frère qui s'appelle Vertu, l'autre fois, il a dit, mais toi, tu as un nom, ça te responsabilise. Hein? Je lui dis. Et c'est vrai qu'il y a des noms, des fois, ils ont une signification qu'on prend, ça nous responsabilise. On raconte qu'un jour, un soldat buveur et bagarreur a été convoqué chez Alexandre le Grand. Alexandre le Grand le reçoit et dit, quel est ton nom? Alexandre. Alors Alexandre le Grand lui a dit, soit tu changes d'attitude, soit tu changes de nom. Et je crois que quelque part, c'est vrai. On voit que certains, lorsqu'ils se convertissaient au Seigneur, ils changeaient de nom. Hein, il y avait quand même un message, une volonté de changer d'identité. Mais Onésime, il n'a pas changé de nom. Il devait changer d'attitude. Parce qu'il allait devenir utile. Et je crois que Dieu allait faire de lui quelqu'un utile. Jusque-là, Onésime, excusez-moi pour l'expression, ça avait été un boulet. Mais maintenant, Dieu allait en faire quelqu'un d'utile. Je ne sais pas vous, mais moi, quand je regarde ma vie avant de connaître Jésus, j'ai le sentiment d'avoir été inutile. Bon pour faire des bêtises, enfin, des choses comme ça, mais j'ai le sentiment, alors je ne dis pas qu'aujourd'hui, je suis devenu, mais quand même, j'ai le sentiment d'être utile aujourd'hui. Jésus répond à tous les besoins essentiels, les plus profonds qu'il y a dans le cœur humain. Et dans l'un des besoins essentiels de l'être humain, il y a quoi? Il y a ce qu'on appelle le besoin d'accomplissement. C'est-à-dire le besoin d'avoir du sens à notre vie et d'accomplir quelque chose. L'être humain a besoin de ça. Mais quand on découvre Jésus, notre vie, elle prend du sens. Et on sait dans quelle direction on peut aller, on sait à quoi on est appelé. Et Jésus accomplit ce besoin. Alors il y a des gens, des fois, ils s'accomplissent, mais dans des trucs qui, finalement, au bout du compte, ne servent à rien. Mais nous, on sait qu'en donnant notre vie à Jésus et qu'on rentre dans ce que Dieu a prévu, on rentre dans son service, mais il y a un sentiment d'utilité qui fait du bien. Et ça, c'est quelque chose de beau et de grand. Et Dieu rend notre vie utile. On est dans un monde qui est en pleine dérive. Et Dieu fait de nous des gens qui sont utiles pour annoncer la bonne nouvelle, pour faire du bien autour de nous. Onésime, il est rentré dans cela. Et lorsqu'on donne sa vie à Jésus, on devient utile. Et puis, un dernier point. Dieu l'a amené à rétablir des relations brisées. Je ne sais pas ce qu'Onésime a fait à Philémon, mais à mon avis, il n'est pas allé de main morte. Parce que Philémon, c'est un chrétien, il sait très bien ce que la Bible enseigne sur le pardon. Pourtant, Paul, il y va, hein, il met les formes. Hein. À mon avis, Philémon, c'est bon, le Onésime, j'ai plus envie d'en entendre parler. J'imagine qu'il avait dû en faire pas mal. Et j'imagine qu'Onésime, maintenant, il était conscient du mal qu'il avait fait. Il n'était pas fier. Et pourtant, Paul est en train de remettre Onésime en direction de l'aider. Et on sent qu'Onésime est bien disposé à demander pardon, à faire une démarche. Et Et ça, c'est aussi quelque chose que Dieu fait. Lorsque Jésus devient notre sauveur, on devient quelqu'un de beaucoup plus sociable. On recrée des relations qui ont été brisées. La semaine passée, on a entendu un beau témoignage de Tatiana, hein, qui nous a parlé de sa vie brisée, comment le Seigneur a fait grâce. Et ça l'a amené sur une démarche de réconciliation avec son père. Mais ce genre d'histoire, on en a plein aujourd'hui. Et le Seigneur, il est celui qui nous amène aussi vers des démarches de réconciliation. Alors, c'est jamais facile, mais le Seigneur fait de nous des gens qui sont tournés vers les autres, des gens sociables. Vous savez, l'un des critères de la bonne santé mentale, c'est quoi? C'est justement la sociabilité. Cette capacité à établir des relations avec les autres. Et vous avez des gens, ils vivent en ermite, ils sont insociables, mais quelque part, c'est, pour être bien dans sa tête, il faut créer du lien et de la relation. Dieu nous amène aussi sur ce terrain-là. Je termine. Onésime, c'est peut-être le genre de personne, quand on a entendu qu'il s'était retrouvé en prison, certains ont dit, eh ben, c'est mérité. Hein. C'est bien fait pour lui. C'est pas surprenant. Mais Dieu, il a dit, non, non, non. Certainement qu'il avait entendu la prédication de l'Évangile. Il avait dû entendre les prédications, mais il était au fond de la salle. Je connais l'histoire. Mais là, ça a eu un autre écho et Dieu a persévéré. Et là, Dieu n'a pas renoncé. Ça, c'est la marque de l'amour de Dieu. Hein. Dieu nous aime. Et heureusement qu'il dit pas, je te laisse une chance, et après c'est fini. Hein. Le Dieu, il va nous chercher. Hein. Et il va essayer de nous placer au contact de l'Évangile parce qu'il veut nous sauver. Il veut pardonner nos péchés. Retenons que ce que Dieu a fait avec Onésime, il veut le faire dans votre vie. Il veut le faire dans ta vie. Ce qu'il veut, c'est d'abord intervenir dans ta vie quand tu diras stop. Ce qu'il veut, c'est te faire naître d'en haut. Ça, c'est possible parce que Jésus a donné sa vie sur la croix. Parce que la mort et la résurrection de Jésus rendent possible la nouvelle naissance maintenant. C'est ce que Jésus veut, c'est te libérer en profondeur. Pas seulement d'une petite chose visible, mais il y a même des fois des choses plus profondes. Ce que Dieu veut, c'est te rendre utile. Ce que Dieu veut, c'est t'amener à rétablir des relations brisées et trouver du lien, et même de devenir quelqu'un de sociable. Ta part, c'est de te dire stop, il y en a marre de cette vie de péché. Ta part, c'est de dire Seigneur, je crois que tu as donné ta vie sur la croix pour moi. Je suis un pécheur et j'ai besoin de ta grâce. Et quand cette prière elle est vraie, et qu'on met tout en lumière, la grâce de Dieu elle est à l'œuvre, et l'œuvre de Jésus se fait. Et ma prière, c'est qu'elle se fasse cet après-midi dans le cœur de quelqu'un. On va prier le Seigneur.